C'est Jean-Philippe, tu veux le faire hein?
Seigneur éternel du Tout-Puissant, nous sommes contents chaque fois, Seigneur, de nous retrouver ensemble, Seigneur, parce que c'est là aussi que tu envoies ta bénédiction. C'est là que nous recevons de ta part, Seigneur, une parole, Seigneur, un témoignage d'amour, Seigneur, par un frère, par une sœur, Seigneur. Et c'est là la famille de Dieu, c'est là ce que nous sommes devant toi, Père. Et nous sommes heureux chaque fois de nous retrouver ensemble, Seigneur, là où ta présence, Seigneur, nous réjouit. Nous souhaitons aussi que d'autres puissent se réjouir aussi, Père. C'est pour cela que nous voulons les remettre entre tes mains, nous voulons remettre Joël entre tes mains, Seigneur. Tu vois ces troubles, ces difficultés, nous voulons te le remettre afin qu'il soit totalement rétabli, Seigneur mon Dieu. Nous te prions de tout notre cœur, Seigneur, qu'il puisse vraiment se remettre, Seigneur, et que tout cela ne soit qu'un souvenir, mon Dieu. Merci pour Joël aussi, la femme de Georges, Seigneur, l'épouse de Georges. Merci, Seigneur, que tu puisses aussi passer ta main guérissante, Seigneur, et permettre que toutes ces mauvaises cellules, Seigneur, disparaissent, Seigneur, et que cela soit comme un miracle, Seigneur, pour ces médecins qui ne comprennent pas, Seigneur, et qu'ils voient simplement ta gloire, qu'ils voient que tu es le Dieu vivant, le Dieu agissant, Seigneur, qui fait aussi ces miracles, Père. Nous la remettons entre tes mains, mon Dieu. Et nous voulons aussi remettre Didier, Seigneur, entre tes mains, que tu puisses le bénir dans sa situation, Père. Merci encore pour tout, Seigneur mon Dieu. Et tout ce Stéphane aussi, tu vois ses difficultés, Seigneur, pour ses papiers administratifs, que tu puisses débloquer la situation et que tout se passe pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Amen. Il y avait aussi un autre sujet, hein, dit rien, hein, discrète, mais il y a Gaël aussi qui avait eu quelques... Je ne vois pas là, je sais pas où elle est. Allez, voilà. Il y a eu quelques soucis aussi, hein, au niveau du dos. Et pas très drôle non plus. Je vais arrêter le chauffage. Là.
Le chat se trouverait pas cette petite ici.
Et puis même... Jean-Philippe, il a prié aussi, mais demain, il a une petite, on va dire, inspection, entre guillemets, là, en cours. Hein, donc, c'est toujours stressant aussi comme situation, hein, même si c'est pas... Voilà, hein, on sait que ce sont des choses qui sont là, mais bon, voilà.
Je dirais même, ce serait plus pour le renouvellement du contrat. Quoi.
Oui, ça aussi. Oui.
Ça, il se termine en juillet, et bon.
Oui. Oui. Moi qui connais bien les rouages, je...
Je dirais.
Alors, on est donc dans cette série d'études là, sur un petit peu les doctrines. Et on est donc la semaine dernière et aujourd'hui au niveau de l'Église. Donc je vous fais un rapide résumé de ce que nous avons pu voir la semaine dernière. Si j'oublie quelque chose, vous intervenez. Donc la semaine dernière, on a vu l'Église dans le sens universel. Donc, l'ensemble des chrétiens, tous ceux qui appartiennent au Christ, qui lui ont remis leur vie, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie dans les cieux, forment l'Église. Il y a un verset dans 1 Corinthiens chapitre 12 qui nous dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et il nous est dit de Christ qui est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps. Donc voilà, tous les chrétiens qui ont remis leur vie donc dans les mains de Christ appartiennent à l'Église. Et l'Église est illustrée de manière différente dans la parole de Dieu, donc c'est le corps, hein, et c'est le Christ qui est la tête, et tous nous formons des membres de ce corps, ou des cellules. Voilà. Et il y a aussi, après l'autre image, c'est le bâtiment, donc un édifice, et nous sommes des pierres vivantes, et le fondement, c'est le Christ lui-même. Et puis il y a aussi l'image de l'épouse, l'épouse qui s'est préparée pour son époux, cette épouse que le Seigneur s'est acquise et qu'il rend pur, saint, sans reproche, irrépréhensible. C'est donc ce travail aussi qu'il fait. Et il nous a dit que c'est lui qui bâtit son Église. Voilà ce que nous avions vu la dernière fois. Et on avait parlé aussi alors, de l'Église, l'Église œcuménique, ça veut dire donc l'Église universelle sur la terre habitée tout entière. Ça, c'est le sens d'œcuménia. Mais il y a le mouvement œcuménique, qui, lui, est un mouvement qui veut une unité en prenant la prière de Jésus. Je te prie que tous soient un, mais sans citer forcément la suite. Hein, tous soient un comme nous, Père, nous sommes un. Voilà, comme je suis en toi et que toi tu es en moi, souvent le mouvement œcuménique prend que tous soient un. Et c'est une unité pratiquement à n'importe quel prix et avec un objectif. L'objectif, c'est l'unité. Et on a vu qu'en fait, l'unité ne peut pas être l'objectif, mais elle est une conséquence. Elle est une conséquence de la vie de Christ en nous et du Saint-Esprit qui agit dans son corps. Voilà. Et donc, bien entendu, pour qu'il y ait cette unité réelle, il faut que nous puissions le placer au premier plan. Et quand nous le plaçons au premier plan, eh bien, tout naturellement, il y a cette unité qui se fait. Et la véritable Église œcuménique dans le sens positif, dans le sens biblique du terme, et non pas au niveau de ce mouvement qui va quelque part même accepter des syncrétistes, des personnes qui ne sont pas forcément à Christ, au nom de l'unité. Et on avait cité cette parabole de Jésus, le champ dans lequel du blé a été semé, un ennemi a mis aussi de l'ivraie, et les deux plantes sont semblables, sauf que l'une est utile, on peut en faire de la farine, alors que l'autre, on n'en fait rien. Voilà. Et il y a aussi cette autre parabole du royaume des cieux, qui est semblable à un arbre gigantesque, dans lequel des oiseaux viennent nicher. Et les oiseaux, dans la parole de Dieu, c'est aussi une image de l'ennemi. Voilà. Donc ça nous montre bien que dans l'Église, il peut y avoir des gens qui ne sont pas des chrétiens, qui ont une apparence, mais ça s'arrête là. Et bien évidemment, la parole de Dieu nous demande d'être vigilants à ce niveau-là. Et il est absolument impossible de faire des concessions. Voilà, c'est pas possible. On va accueillir ces personnes-là pour les évangéliser, mais ça s'arrête là. Par contre, les chrétiens, quels que soient les chrétiens véritables, quelle que soit leur dénomination, eh bien, nous sommes tous membres du corps de Christ, et nous allons passer l'éternité ensemble. Et on peut avoir des fois des divergences de compréhension doctrinale, mais ce n'est pas ce qui doit rentrer en compte pour mettre à mal cette unité, et que ce soit l'Église locale, ici ou ailleurs. Voilà, on est frères et sœurs en Christ, et on passera l'éternité ensemble. Et voilà un petit peu ce que nous avons vu la dernière fois. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Pas forcément. Alors, je vais vous donner à nouveau, que je ne me trompe pas, juste quelques versets. J'ai juste mis quelques versets. Vous verrez, il n'y en a pas énormément, je m'en garde. On verra avec le temps, là, ce qu'on pourra faire. Peut-être qu'on pourra tout faire, on verra bien. Voilà. Donc, la dernière fois, c'était donc l'Église dans le sens universel. Et cette fois-ci, on va parler plutôt de l'Église locale, que l'on va trouver aussi dans la parole de Dieu. Et souvent, c'est un mot, donc c'est le même mot, Ecclesia, qui va donc désigner un groupe de croyants qui se retrouvent, qui sont donc dans une même localité. Et on va trouver l'Église de Jérusalem, dans la parole de Dieu, l'Église d'Éphèse, l'Église de Corinthe, etc. Alors, dans Galates, juste, il y a plein de références, vous les connaissez, vous les avez lues à plusieurs reprises. Je vous lis juste Galates, chapitre 1, verset 2, parce que c'est un verset que l'on reprendra. Tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Parce qu'il y avait en fait plusieurs villes dans cette région, et dans chaque ville, il y avait une église. On voit aussi qu'il y avait des églises de maison. Paul aux Romains, au chapitre 16, va saluer plusieurs personnes, et il va dire, alors je crois que c'est, je ne m'en rappelle plus le nom, ça ne va pas me revenir, un nom et l'église qui se réunit dans sa maison. Je ne me souviens plus du nom de la personne. Voilà, ce n'est pas forcément important. Voilà. Donc il y avait des églises de maison, et aujourd'hui aussi, il y a des églises de maison. Et les premiers chrétiens, très très souvent, ont démarré par des églises de maison. Et un endroit, enfin, ou des régions où aujourd'hui on trouve beaucoup d'églises de maison, ce sont tous les pays où la parole de Dieu est interdite, où les chrétiens sont persécutés, parce que c'est souvent le moyen le plus évident pour se rencontrer, le faire dans des maisons, et on ne peut pas avoir de bâtiment, parce que de toute façon, les autorités ne l'acceptent pas. Alors, juste quelque chose aussi, église ou assemblée. Alors, pour certains, c'est quelque chose de très important. Et il y a des frères en Christ qui ne vont jamais employer le mot église. Et inversement, d'autres qui vont n'employer que le mot église. En fait, les deux traductions, église ou assemblée, sont valables. Et on voit dans la parole de Dieu qu'on va trouver les deux traductions. Par contre, je crois que Darby, de tête, n'utilise jamais le mot église. C'est toujours le mot assemblée qui est utilisé en réaction avec les dérives de l'église catholique. Donc Darby voilà, avait mm-hmm. choisi de bannir le mot église et de toujours utiliser le mot assemblée. Mais les deux sont valables. Et je voudrais juste vous citer aussi quelque chose qui est intéressant, enfin que j'ai trouvé intéressant. C'est un mot, kouriakos, que l'on trouve deux fois. On le trouve par exemple dans 1 Corinthiens au chapitre 11, le verset 20, lorsqu'il est parlé du repas du Seigneur. Du Seigneur, kouriakos en grec. Et on le trouve aussi dans l'Apocalypse, le jour du Seigneur, kouriakos. Ça veut dire donc appartenant au Seigneur. Et pourquoi je vous cite ça? Parce que kouriakos, ça a donné le mot church, donc église en anglais. Et je trouve que c'est vraiment une bonne traduction finalement, hein, comme quoi les Anglais des fois, hein. Je plaisante, il faut que ça soit enregistré ça. Hein. là, il y a vraiment une bonne traduction, l'Église, c'est appartenant au Seigneur, tout simplement. Mm-hmm. Voilà. Alors, on voit aussi dans la parole de Dieu qu'il y a beaucoup de similitudes dans les... parole qui s'adresse à l'Église universelle, donc tous les croyants sur la terre tout entière, ou l'Église locale aussi. Et les figures qui sont utilisées pour illustrer ça, eh bien, elles sont pour l'Église universelle comme pour l'Église locale. On le voit dans de nombreux endroits. Alors, on va prendre 1 Corinthiens 12, on l'a lu la dernière fois. Donc, 1 Corinthiens 12, chapitres 12 et 13.
Merci.
Donc, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'Église universelle. Et si on prend le contexte, on se rend compte qu'il y a beaucoup de paroles qui sont adressées à l'église locale. Il est parlé du corps, mais avec les dons aussi, on voit que des dons, par exemple une parole d'encouragement, d'exhortation, on voit que c'est adressé à l'église locale. Donc vraiment pour montrer que les illustrations sont valables pour les deux, il y a un rapprochement vraiment entre l'église locale et l'église universelle, et c'est tout à fait logique. Parce que finalement, l'église locale, c'est un condensé, un résumé de l'église universelle. Parce qu'on est totalement limité, et il est bien évident que l'Église universelle, on ne peut pas l'appréhender dans toute sa richesse. Les chrétiens de la terre entière, de tous les temps, tous ceux dont leurs noms sont écrits dans le livre de vie, ça nous échappe. Par contre, quand je vois l'Église locale, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui me montre l'Église universelle, et donc l'épouse, le corps de Christ. Ce bâtiment et toutes ces merveilles qui sont montrées dans la parole de Dieu. Et avec toujours le même fondement, Jésus-Christ. Et c'est bien évident que si une église locale n'a pas ce fondement, eh bien c'est une coquille vide, parce que l'Esprit de Dieu n'y est pas. Ça c'est une évidence, la base, le fondement, c'est Jésus-Christ. Et on avait vu la dernière fois que c'est l'enseignement des prophètes et des apôtres, et les prophètes et les apôtres, leur enseignement nous montre qui ? Nous montre Christ. Alors, l'Église universelle, on voit qu'en fait, elle est parfaite. Et quelque part, c'est comme cela que je dois voir l'Église locale. Mais c'est peut-être moins évident. Mais malgré tout, c'est une réalité, parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Christ. Mais quelque part, ça me fait penser aussi, parce que c'est difficile, mais quelqu'un me disait, je vais plagier un frère en Christ qui disait ceci, disait, montrez-moi une église parfaite, vous me donnez l'adresse, j'y vais, et automatiquement elle ne sera plus parfaite. Parce que, évidemment, hein, on se connaît, on sait très très bien que, eh bien, on est loin de la perfection. C'est une réalité. Mais on est l'œuvre de Christ. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment le plus important de tout. C'est l'œuvre de Christ. Alors, je ne sais pas si vous voulez, hein, toujours pareil, hein, je parle, mais n'hésitez pas à intervenir si vous voulez dire quelque chose à ce sujet. Alors, on va parler un petit peu du fonctionnement de l'Église locale. Et on va prendre un texte, alors on va juste prendre des extraits pour ne pas trop prolonger. C'est dans Tite. Alors on va prendre juste alors quelques extraits. Je vous lis les versets 5 à 11. Donc, c'est Paul qui est l'auteur, qui parle à Tite. Et il va lui dire, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme un homme de Dieu, etc. » Donc voilà une tâche qui est donnée à Tite. Et puis on va voir qu'à de nombreuses reprises, chapitre 2, verset 1, dit les choses qui sont conformes à la sainte doctrine, dit que les vieillards, dit ceci, dit cela, dit. Et il y a beaucoup de demandes de Paul à Tite pour qu'il entreprenne des actions, voilà, une formation, quelque part, vraiment très très importante. Et il va dire ceci qui est très intéressant. Au chapitre 2, verset 15, dit ces choses, encore une fois, exhorte, reprend, avec une pleine autorité. Et puis après, il va continuer des exhortations, rappelle l'heure d'être soumis aux autorités, aux magistrats, etc. Alors, beaucoup de choses, voilà, difficiles peut-être à dire, mais avec ce verset un petit peu clé, dit ces choses avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Une pleine autorité. Et au niveau du fonctionnement de l'Église locale, on va se rendre compte qu'il y a aussi une autorité. Mais quelque part, je crois que c'est bien de se rappeler un petit peu l'autorité au sens biblique. Alors, il est fort possible qu'on ait une étude, un soir, sur aussi l'autorité, avec beaucoup de choses dans la parole de Dieu, qui ne sont pas dans l'air du temps. Donc on en parlera sans doute, mais juste là, rapidement, l'autorité selon la Bible. Parce qu'en fait, l'autorité selon les hommes, elle est totalement opposée à ce que nous voyons dans la parole de Dieu. L'autorité selon les hommes, c'est une autorité biblique qui a été tordue, déformée, et qui n'est qu'une parodie de l'autorité selon Dieu. Ça n'a strictement rien à voir, et finalement c'est de l'intolérance, de l'exploitation. Vouloir prendre le dessus sur l'autre, c'est systématiquement ce que l'on va retrouver dans le monde. Un des aspects les plus tragiques, hein, c'est l'esclavage qui existe encore de nos jours, hein, où on voit vraiment que l'homme, finalement, son prochain, mais pour lui, c'est rien du tout. Alors, aujourd'hui, dans nos pays, on ne va pas forcément entendre parler d'esclavage, hein, mais on va entendre parler aussi de la condition féminine. Alors, c'est vrai que si on entend beaucoup de choses et des fois des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, ce n'est pas une raison pour tout rejeter. Il y a quand même des réalités et les hommes, hein, les masculins, hein, prennent prétexte de leur force pour dominer et écraser les femmes qui sont plus faibles. Et il y a beaucoup de drames de nos jours aussi dans ce domaine. Voilà. L'autorité divine et l'autoritarisme, on va dire, humain, ce sont deux choses totalement opposés, hein, comme la nuit et le jour sont opposés, c'est pareil. Hein. Parce que on voit que finalement, selon la parole de Dieu, l'autorité biblique, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur l'amour. C'est vraiment l'amour qui va être la base de l'autorité dans la parole de Dieu. L'autoritarisme humain, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui est toujours la base. Voilà, je suis au-dessus. Je suis au-dessus des autres et donc je m'impose parce que je suis le plus fort. Alors que l'autorité, selon la Bible, ne va pas chercher à imposer, mais c'est l'amour qui va vraiment la dicter. Et en réflexe, normalement, et c'est ce que Dieu veut, il y a la confiance. Et il y a vraiment une collaboration dans la confiance qui va s'établir. Et l'autorité, selon Dieu, va laisser une réelle liberté à l'homme. Alors que ce n'est pas du tout le cas de l'autoritarisme humain. C'est totalement opposé. L'autorité, selon la parole de Dieu, eh bien, on va voir, et c'est le Christ qui est notre exemple, elle va s'abaisser jusqu'à laver les pieds de son prochain. Et elle va tout faire pour élever le prochain. Et j'aime beaucoup ce récit de Jésus lorsqu'il parle de cet homme qui est invité. Et Jésus va dire, lorsque tu es invité à un repas de noces, ne te mets pas à la première place. Mais mets-toi à la dernière place pour que l'hôte qui t'a invité vienne et te dise, mon ami, monte plus haut. Et c'est vraiment ça, l'esprit, l'autorité de la parole de Dieu, c'est ça, c'est te pousser vers le haut son prochain. Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est vraiment, en fait, l'autorité véritable n'existe que pour le bien des autres, de son prochain. Alors que l'autoritarisme, selon le monde, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est vrai que l'homme abuse de l'autorité. Mais ça n'est pas une raison pour tout rejeter. Ce n'est pas parce que l'homme déforme l'autorité qu'on va rejeter toute forme d'autorité. Et c'est pas du tout ce que nous annonce, ce que nous enseigne la parole de Dieu. De toute façon, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, et notamment puisqu'on parle du fonctionnement de l'Église locale, c'est que l'autorité au niveau de l'Église locale, c'est une autorité qui est déléguée. Parce que l'autorité suprême, c'est Dieu. Et Dieu va déléguer son autorité à des hommes. Et si ces hommes ne sont plus soumis à l'autorité de Dieu, quelque part, ils se discréditent et leur autorité n'a plus de sens. Elle est vidée de son sens et elle perd tout son crédit. Donc, l'autorité au niveau de l'Église ne peut exister que si elle est soumise à l'autorité de Dieu. Et dans ce cas, automatiquement, par l'Esprit de Dieu, les choses se passeront totalement dans l'amour et l'autorité au niveau de l'Église va tout faire pour élever les frères et les sœurs. Et il y a vraiment un gouffre entre ce qu'on entend aujourd'hui et ce que la Bible nous montre au sujet de l'autorité. Ce sont deux mots identiques, mais finalement qui désignent des choses totalement différentes. Voilà. Et ça, il faut vraiment qu'on puisse vraiment se l'approprier. Exercer une autorité selon Dieu, c'est aimer son prochain, de toute façon. Voilà. Et je voudrais vous faire remarquer quelque chose aussi d'intéressant pour montrer que l'esprit du monde est totalement opposé à cette conception de l'autorité divine. On va voir dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 9. Alors, si quelqu'un veut le lire, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, le premier qu'il a.
La venue de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes impressionnants et de prodiges trompeurs.
Voilà. Donc toi, tu as la version Sommer, la venue de cet homme. Est-ce que quelqu'un a la version second, par exemple?
Oui.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
Voilà. Donc cet homme, l'impie, en fait c'est l'antéchrist, et toi tu as l'homme de la révolte. Voilà. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est quand même très très intéressant, le terme grec qui est utilisé c'est anomos, de a privatif et pas busy comme dirait Louis de Funès, je connais mes classiques, mais nomos ça veut dire loi, c'est la loi. Donc l'homme sans loi, a rapproché d'anarchie. Anarchie, l'homme sans origine, sans commandement. Donc c'est un petit peu la même chose. Donc l'impie, c'est l'homme sans loi. L'homme qui ne veut pas d'autorité. Et il nous a dit au verset 7, le mystère de l'iniquité, c'est la même racine, agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc on peut dire que le refus de la loi, le refus de l'autorité, agit déjà. Et c'est quelque chose qui va aller s'amplifiant. Et c'est l'esprit du monde. Et on n'est pas étonné, lorsqu'on ouvre la radio, qu'on entend les informations, de voir que finalement, l'autorité est totalement bafouée, quelle qu'elle soit, les forces de l'ordre sont totalement discréditées, etc. C'est normal. C'est normal, puisque la Bible nous dit que c'est une réalité, et que ça va aller s'amplifiant. Mais il n'en est pas ainsi au sein de l'œuvre de Dieu. C'est pas du tout ce que Dieu veut. Et c'est beaucoup plus simple, puisque l'autorité selon Dieu n'a rien à voir avec l'autorité humaine. Donc, quelque part, c'est différent. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que c'est l'œuvre de Dieu aussi. Et c'est son Esprit Saint qui nous permet également de rentrer dans cette autorité, dans cette acceptation de l'autorité, alors que tout autour de nous pousse à l'inverse. Et ça, c'est vraiment encore l'Esprit de Dieu. Et c'est un cadre que Dieu veut. Et au niveau de l'Église locale, c'est un cadre aussi que Dieu a mis en place. Alors, on va continuer un petit peu, mais c'était juste là un petit rappel concernant l'autorité. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, peut-être, à ce sujet?
En fait, simplement parce que ce que tu dis, c'est compréhensible dans le sens que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, le diable. Et le diable, c'est le rebelle. Et toute personne qui n'est pas née de nouveau est en fait fils du diable, c'est-à-dire fils de la rébellion. Et donc, il n'est pas étonnant que les enfants reflètent le caractère de leur père. Si le père est rebelle, les enfants seront rebelles. Et c'est ce que dit aussi là le fils de la rébellion. Et c'est pour ça qu'en fait les hommes se révoltent contre l'autorité et contre Dieu. Parce que se révolter contre l'autorité, en fait, c'est une révolte, si on va plus loin, contre Dieu lui-même. Et donc, cette révolte contre Dieu lui-même est inscrite dans les gènes de l'homme déchu. L'homme déchu, par nature, révolté contre Dieu. Et donc, contre lui. Toute autorité qu'elle puisse.
Et c'est ce que dit Paul, il n'y a pas d'autorité qui ait été instituée par Dieu. Donc voilà, même le roi, le magistrat, le gouvernement, etc. Et il va dire, celui qui se révolte contre l'autorité, quelque part il se révolte contre Dieu. Et voilà, donc c'est vraiment ce que tu dis. Mais vraiment l'Esprit de Dieu nous permet d'aller à contre-courant de toutes ces informations qui nous pousseraient à quelque part marcher au pas, en refusant aussi l'autorité. Ça paraît un petit peu contradictoire et paradoxal, mais c'est vraiment ça. Marcher au pas, c'est-à-dire faire comme tout ce qui se passe autour de nous, voilà, se laisser finalement emporter par ce courant, voilà, et aller à l'encontre de ce que Dieu nous demande de faire. Mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous permet de vivre avec vraiment cette compréhension de l'autorité, sachant que c'est lui qui est au-dessus de toute chose. Alors, on va aller un petit peu plus loin, et puis on va relire le chapitre, le verset 5 de Tite, chapitre 1. Je vous le relis, Tite 1, 5. Donc, on l'a lu il n'y a pas longtemps. Je te laisse en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Tu établisses des anciens. On va parler un petit peu de ce sujet. Alors, pasteur au singulier, ancien au singulier ou ancien au pluriel. Si on se réfère à la pratique courante, on va dire que très très souvent il y a un pasteur avec des anciens, et que quand c'est une église beaucoup plus importante, il y a un pasteur principal avec éventuellement des pasteurs adjoints et peut-être des anciens. C'est un petit peu ce que nous voyons très très souvent autour de nous. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu demande? Ou est-ce qu'il y a eu aussi une tradition qui s'est installée? On peut quand même au moins prendre quelques versets et s'interroger là-dessus. Et c'est ce que je vous propose de voir un petit peu maintenant. Alors, pasteur, on va commencer par le terme qui est le plus employé. Pasteur, on le retrouve 27 fois dans l'Ancien Testament. Alors, c'est de l'hébreu, Raa, vous connaissez tous. Et c'est souvent traduit aussi par berger. Et ça signifie en fait berger. Et je vous lis par exemple Jérémie 23, verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Donc voilà, on va trouver assez souvent ce terme, même si dans beaucoup de traductions il va être traduit par berger, mais c'est aussi pasteur qui est donné. Et puis on va le trouver 4 fois dans le Nouveau Testament. Donc là c'est poémen. Sauf que sur les 4 fois, on va le trouver 3 fois avec auparavant archi, archi poémen. Et ça, c'est en fait un terme qui s'adresse au souverain pasteur, au pasteur avec le P majuscule, c'est-à-dire le bon berger, c'est-à-dire Christ lui-même. Donc sur les 4 fois, 3 fois, c'est un des versets qui désigne le Christ lui-même. Et puis une fois, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, où il nous est parlé de les uns sont ceci, les autres cela, et d'autres sont pasteurs et docteurs, et d'autres traductions vont dire berger et enseignant. De toute façon, pasteur, ça vient du latin, pastor, qui veut dire berger. Voilà. Donc ça, c'est un premier terme. Un deuxième terme aussi, ça va être ancien. Pareil, ancien, on va le retrouver énormément dans l'Ancien Testament. L'ancien siégeait, par exemple, à la porte de la ville, là. C'était souvent quelqu'un qui était bien vu. On va le trouver souvent dans l'Ancien Testament. On le trouve aussi dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. On va trouver les anciens qui sont accoquinés avec les scribes et les pharisiens pour finalement aller à l'encontre de Jésus et mettre des bâtons dans les roues au Christ lui-même. On va trouver aussi ces anciens un petit peu avec la même posture dans le début des Actes des Apôtres. Et puis, on va le trouver alors, dans la traduction second, 15 fois. Alors, quand je vous ai dit 4 fois pour pasteur, c'est dans la traduction second. J'ai oublié de vous le préciser, puisque les traductions vont des fois mettre berger aussi. Mais ancien, on va le trouver 15 fois dans la traduction second, concernant donc l'église locale. Et je vous propose de regarder dans Actes, au chapitre 20. Les versets 17 et 28 simplement. Alors 17, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Donc les anciens d'Éphèse. Et puis verset 28, il va continuer à leur parler, il va leur dire, donc tout le discours de Paul s'adresse aux anciens, on va pas le lire, mais parce que le temps passe vite, mais verset 28, prenez donc garde à vous-même, vous les anciens, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Et il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est que il y a un deuxième terme qui est utilisé aussi, ça va être évêque, mais c'est surtout aussi pour paître le troupeau, le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. On va revenir sur ce passage dans quelques temps, mais je voudrais aussi lire dans 1 Pierre un passage qui est similaire et qui est très instructif à ce sujet. 1 Pierre 5, versets 1 et 2. Quelqu'un peut le lire ?
Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu et que votre qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement.
Voilà. Donc, alors, évêque, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est utilisé 5 fois. Et une fois, sur les 5 fois, une fois concernant Jésus, 4 fois concernant les responsables d'Église. Voilà. Mais quand on regarde donc ce texte de 1 Pierre, on peut le comparer à Actes, ce que nous avons lu. Ils sont assez similaires. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que qu'est-ce qui est demandé aux anciens ? De paître le troupeau. PC, c'est la même origine que le mot qui a été traduit par pasteur. Donc quelque part, les anciens doivent être les pasteurs du troupeau. Voilà. Et ensuite, qui est sous votre garde? Sous votre garde, c'est le mot qui a été traduit par évêque, ça veut dire donc surveillant, voilà, veiller sur. Voilà, plutôt veiller sur que surveillant. Hein. Veiller sur dans un sens voilà, d'être attentif, comme finalement le berger va être attentif aux brebis et va être voilà, vigilant pour voir s'il y en a une qui serait en difficulté, malade, etc. Voilà ce que Pierre demande ici aux anciens et ce que aussi on a trouvé également dans les actes au chapitre 20. Donc on se rend compte que les anciens sont appelés aussi évêques. Et on leur demande d'être les bergers, donc d'être les pasteurs. Alors, déjà, hein, quand on voit ces passages, on se dit que c'est peut-être pas tout à fait la pratique, on va dire, la plus courante de notre monde évangélique. Alors, c'est vrai que souvent aussi, pasteur, ça va être la personne qui va être à plein temps. Voilà. Et puis, ancien, ça va être ceux qui ne sont pas forcément à plein temps. Alors, là aussi, il y a de plus en plus d'églises qui vont appeler le pasteur à plein temps, donc ancien à plein temps. Je crois par exemple qu'à Tarbes, c'est maintenant ce qu'ils ont mis. Je lisais un bouquin là, très intéressant, celui qu'il a écrit, il est ancien d'une très très grande église, et quand il est arrivé, quelque part, il fallait qu'il soit le pasteur principal, voilà, et il y avait d'autres qui étaient là aussi, et lui, il a changé cela, et il se fait maintenant appeler ancien, à plein temps. Ouais. Voilà. Donc il y a aussi voilà, une compréhension peut-être un petit peu différente, mais c'est vrai que quelque part il y a eu cette tendance-là à laisser la responsabilité voilà, à quelqu'un, et on va voir que ce n'est peut-être pas forcément ce que la parole de Dieu nous enseigne vraiment. Ouais. Alors, dans le quotidien, par contre, si vous dites à quelqu'un, bon, mais voilà, hein, c'est l'ancien, bon, ça va même avoir une petite connotation un petit peu, bon, cabalistique, là, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelque temps, je devais aller visiter une personne à l'hôpital où les visites étaient interdites, et quand j'ai appelé pour demander si je pouvais y aller, on m'a posé des questions, et je me suis présenté comme étant pasteur, hein, et là... automatiquement, j'ai pu aller visiter la personne. Si j'avais dit ancien, à mon avis, c'était fini. Voilà. Et dans le langage courant, voilà. Là, je discutais avec quelqu'un qui est descendu de Paris là, dans notre établissement là, pour inspecter des collègues. Et il me demandait, je lui dis, bon, je suis pressé, je dois partir, je suis désolé, je te laisse comme ça. Ah bon, mais pourtant t'es à 40%. Et je dis, ouais, mais bon, et je lui dis, bon, voilà, je fais partie d'une équipe pastorale dans une église. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Si je lui avais dit, je suis ancien, il aurait rien compris. Oui. Mais voilà, là, il y a une compréhension à cause du langage courant. Évidemment, hein, évidemment, ça c'est quelque chose voilà, que l'on connaît. Autre chose aussi, hein, concernant un autre point, concernant les us et coutumes actuels, on a dit que souvent, le schéma hein, que l'on va retrouver, c'est un pasteur, éventuellement des pasteurs adjoints, et puis ensuite aussi des anciens. Donc, si on pense qu'on comprend avec la parole de Dieu que anciens et pasteurs, ce sont quand même des termes interchangeables, et évêques aussi, que dit la parole de Dieu à ce sujet? Vous pouvez prendre tous les versets que vous allez pouvoir chercher et trouver. Je vous en cite quelques-uns. Actes, chapitre 11, verset 30, il est question non pas d'un ancien, mais des anciens au pluriel. Actes 14, 23, même chose, les anciens. Acte 15, verset 2, verset 4, verset 6, verset 22, verset 23, toujours au pluriel. On a lu dans Tite, des anciens dans chaque ville. Les anciens d'Éphèse, donc c'était une église, Éphèse, qui avait donc des anciens. Nulle part, vous trouverez le terme ancien au singulier. Et donc on voit que Dieu a voulu qu'il y ait une pluralité au niveau donc des anciens et des responsables d'une église. Et c'est quelque chose qui est important aussi. Et c'est vrai que là aussi, il y a eu, donc petit à petit, quand on prend l'histoire de l'église, très rapidement, ça a été délaissé, donc cette pluralité a été délaissée au profit d'un homme. Voilà, et il y a eu une espèce de cléricalisme qui s'est installé ainsi. Mais on voit dans la parole de Dieu que ce n'est pas le schéma que Dieu nous propose. C'est toujours, les anciens au pluriel. Et d'ailleurs, quand Jésus a envoyé ses disciples, il les a envoyés non pas seuls, hein, mais deux par deux. Et on va trouver très très souvent pas systématiquement, mais très souvent, en tout cas, même dans les actes, les apôtres qui partaient en équipe, qui partaient en équipe aussi. On le trouve pas forcément, mais il y a une tradition quelque part qui s'est installée à ce sujet, mais qui n'est pas conforme quand même au texte de la parole de Dieu. J'ai eu l'occasion aussi d'entendre beaucoup de choses. J'ai eu quelqu'un qui disait, oui, mais bon, mais l'Église, il ne peut pas y avoir, par exemple, deux personnes, une direction bicéphale. Bon, j'avais envie de dire, non, c'est vrai, il n'y a pas de direction bicéphale, parce qu'il y a une seule tête, et cette tête, c'est Christ. Voilà. Et donc, quelque part, les anciens, les pasteurs, etc., eux, ils sont soumis à cette direction, à cette tête qui est Christ, uniquement Christ. Quelque part, pour... une image, je ne me le suis pas marqué, j'essaie de réfléchir en vous parlant, mes neurones commencent à être défaillants, mais pour... ils diminuent. une image, quand on parle du berger, du bon berger, on pense donc au berger actuel, avec les troupeaux, et ils se font aider. Alors on a un spécialiste en plus là, hein. Ils se font aider par les chiens de berger. C'est absolument fantastique de voir comment les chiens de berger sont attentifs au commandement du berger. C'est vraiment extraordinaire. Quelque part, hein, on pourrait dire que c'est un petit peu ça aussi. Voilà. Et les dirigeants d'une église, quelque part, ils sont attentifs à la voix de Dieu, voilà, pour pouvoir obéir aux ordres et diriger l'assemblée. C'est un petit peu aussi une image qu'on pourrait trouver. Et toujours pareil, hein, ce que j'ai pu entendre aussi, c'est quelqu'un qui disait, ouais, mais bon, la voiture, elle n'a qu'un seul volant. Hein. S'il y a un volant d'un côté et puis un autre à droite, un volant à gauche, un volant à droite, hein, avec deux conducteurs, l'un tourne à gauche, l'autre tourne à droite, et ça ne va plus. Là, peut-être aussi qu'il faut revenir à la notion d'autorité, hein, et ne pas confondre autorité et autoritarisme, parce que si les conducteurs sont vraiment soumis à l'autorité de Christ, eh bien, il ne peut pas y avoir de divergence. Et c'est Ralph Chalice qui a écrit un livre, il me semble que c'est La Cellule Vivante, dans lequel il dit que, et il a raison, que l'Église c'est un miracle perpétuel. L'Église c'est un miracle perpétuel parce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui va permettre à tous les rouages de fonctionner. Et c'est quelque chose qui est même opposé à la nature humaine. La nature humaine, toujours l'autoritarisme, il y a un caractère fort qui cherche à prendre le dessus. Mais l'Esprit de Dieu va gommer tout cela pour que tout fonctionne comme lui le désire. Et une équipe, hein, ce n'est pas parce qu'il y a une équipe que les choses vont dysfonctionner. Si l'Esprit de Dieu est là, au contraire, c'est vraiment un miracle qui se produit, un miracle au quotidien, qui permet que l'œuvre de Dieu puisse grandir et qui permet à Christ d'être des instruments pour qu'il bâtisse son Église. Encore une fois, si l'Esprit de Dieu est absent, l'Église, ce n'est pas une habitation de Dieu, c'est un bâtiment vide qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Et en plus, être plusieurs, les proverbes disent que plusieurs conseillers, le salut dans le nombre des conseillers, je ne me rappelle pas les termes, mais là aussi c'est aussi important. J'ai presque envie de dire, même si on n'a pas de raison, de toute façon c'est ce que Dieu nous demande. Donc la foi c'est d'obéir. Mais il y a des raisons qui nous montrent que c'est aussi une richesse d'être à plusieurs. Parce que, et on peut le voir, Georges n'a pas pu venir, Benjamin, je pense, il garde les enfants, mais il pourrait témoigner que des fois l'un a une idée, voilà, et puis que l'autre va dire, ah oui, mais là quand même, peut-être que ça risque de coincer, et voilà, il y a un consensus qui se crée, et c'est vraiment quelque chose qui est formidable, et c'est l'œuvre de Dieu. Voilà. Et encore une fois, ça ne vient pas de l'homme. Ça vient vraiment de Dieu et on a à être reconnaissant et à prier vraiment pour que Dieu, au niveau de toute l'Église, de toute l'Église locale, quel que soit le ministère, que vraiment Dieu continue ainsi à œuvrer parce qu'on voit que c'est un miracle de toute façon. Encore une fois, l'idée d'être plusieurs, cette pluralité d'anciens, n'empêche absolument pas quelqu'un à plein temps. Voilà. Et ça aussi, c'est un sujet de prière, hein, et on prie, voilà, et on veut être vraiment attentif à ce que Dieu nous montre, voilà, et vraiment, voilà, que Dieu puisse le permettre, on sera reconnaissant, mais c'est dans ses mains. Et la pluralité n'empêche pas quelqu'un à plein temps, et notre Église grandit, et a vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un à plein temps, parce qu'il y a beaucoup de choses, et les visites, etc., ça prend du temps, et c'est un sujet de prière aussi. Voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, pas du tout. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. Autre petite remarque aussi. Hein, là aussi, quelque chose que l'on entend, c'est l'obligation pour certains, et à l'inverse, d'autres ne veulent pas en entendre parler, qu'un responsable d'église soit passé par un institut biblique ou une faculté de théologie. Et il y a là aussi plusieurs courants. Certains ne veulent pas en entendre parler. Non, non, ça c'est une institution humaine, donc si c'est humain, l'Esprit de Dieu ne peut pas y être, et c'est pas possible. Et à l'inverse, on va entendre d'autres qui vont dire, mais non, mais si tu n'es pas passé par un institut biblique, tu ne peux pas vraiment être un responsable d'église, tu ne peux pas être un pasteur. Et pour ceux qui ont connu le temps avec M. Brunet, vous savez qu'on a été béni hein, par son ministère, de même qu'on a été béni par le ministère d'Alain, il n'y a pas du tout de... Voilà, le Seigneur nous a richement bénis, et on peut vraiment être reconnaissant à ce sujet. Mais M. Brunet a souffert de cela, hein, parce qu'il n'avait pas... Il n'était pas passé par le cursus habituel. Hein, il venait, on va dire, du rang. Hein, voilà. Et dans certaines réunions, dans certaines pastorales, il a eu quelques remarques qui l'ont un petit peu blessé. Et c'est pour ça, après, il me demandait si je pouvais y aller. Moi, je ne suis pas passé aussi par un institut biblique. Hein, mais peut-être que j'avais le caractère un petit peu différent. Et des fois, ils me disaient, on l'appelait le pasteur laïque. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un pasteur laïque hein? Ça n'a pas de sens. Mmh. Et si les anciens se rappellent aussi, il y avait des échanges de chair. Hein? Peut-être que vous vous en rappelez. Mmh. Une fois, un pasteur était venu et avait dit comme ça dans son message, mais vous n'avez pas de pasteur. Voilà. Et à la fin, il y avait eu un tollé, parce que tout le monde considérait M. Brunet comme étant un véritable pasteur, parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire hein? Vouloir obligatoirement un institut biblique ou vouloir absolument pas d'institut biblique, quelque part on bride hein, la puissance du Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit ne pouvait pas se servir de l'outil merveilleux qu'est l'institut biblique, et c'est vraiment une richesse, ou comme s'il ne pouvait pas s'en passer. C'est lui qui forme de toute façon. Et si c'est lui qui forme, il est tout puissant et il peut utiliser un moyen ou un autre. Mais on voit qu'il forme, et Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans. On sait aussi que Paul va dire à Timothée, je pense, enseigne à des personnes qui sont aussi capables de l'enseigner à d'autres. Hein, donc voilà, il y a vraiment un enseignement, et Dieu se sert de différents outils, un institut biblique, comme il peut passer aussi tout simplement par l'église locale. Hein. Et dans la parole de Dieu, hein, le plus prestigieux des instituts bibliques, on le trouve dans l'Ancien Testament, de toute façon. Hein. Il n'y a pas eu un aussi sélect que celui-là. Hein. Mais bon, hein. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose à ce sujet.
On veut savoir lequel c'est, l'institut biblique de l'Ancien Testament.
Sélect. Alors, c'est facile à trouver. Élisée, le prophète Élisée, il formait les fils des prophètes.
Ah, oui. Voilà.
Et ça se faisait où? Dans les champs. C'était donc l'Institut des champs d'Élysée. Voilà. Donc, forcément, c'était...
C'est pour ça qu'il fallait une explication. Je dis sinon, ils vont rester dans le brouillard, les pauvres.
C'est Jean-Philippe qui m'a soufflé le truc. Il dit n'importe quoi.
Bien sûr. J'allais y noter, mais...
Non, mais plaisanterie mise à part, voilà, on sait que Dieu est tout puissant et qu'il se sert voilà, de tous les instruments qu'il veut. Et franchement, même pour les jeunes, si vous avez l'occasion hein, de suivre un institut biblique, eh bien, surtout n'hésitez pas. Si vous n'avez pas l'occasion, vous pouvez le faire aussi en ligne, n'hésitez pas. Mais de toute façon, Dieu est tout puissant. Et c'est son esprit qui forme, voilà, c'est ça qui est le plus important. Par correspondance, voilà, on peut le faire aussi, voilà, et c'est très enrichissant. Hein, mais voilà, ce sont des instruments dans les mains de notre Dieu pour nous former.
Et puis c'est des instituts bibliques, ça donne une connaissance supplémentaire.
Oui.
Mais quant au caractère, c'est Dieu qui forme notre caractère, c'est Dieu qui forme notre aptitude à lui être soumis et à lui obéir. Quoi. En fait,
oui.
Ça doit venir de lui en priorité. Quoi.
Tout à fait.
Parce qu'on peut accumuler des connaissances si on n'est pas capable intérieurement d'être soumis à Christ, on peut être un mauvais responsable. Oui, oui.
Voilà. Et puis c'est un appel de Dieu aussi, c'est après Dieu qui va équiper son serviteur. Donc voilà, et en fait le dernier mot, c'est ça lui revient à lui. Voilà. Oui. Mais après c'est vrai qu'on est en contact avec des personnes versées dans les Écritures, oui. Et forcément c'est enrichissant. Et c'est pour ça que pour les jeunes, je vous encourage aussi, si vous avez la possibilité. Hein, voilà. Mais ce n'est pas une raison pour limiter la puissance du Saint-Esprit.
On va bien dire, par exemple, que quand Pierre s'est adressé plusieurs fois à la foule, on voit qu'à certains, il y a eu un moment où on dit qu'il fut rempli de l'Esprit et il s'exprima. On voit qu'il y a une cause à effet. Quoi. Je veux dire, voilà. Pourtant, Pierre, c'était pas le lettré. Hein.
Oui.
Il n'était pas passé par l'école des pharisiens ou des sadducéens.
Non seulement pas Pierre, mais les apôtres dans leur ensemble, c'était des gens simples. Hein. C'était des gens, d'ailleurs, on dit, mais ne sont-ils pas tous galiléens? C'est des gens simples qui n'ont pas d'instruction. Et finalement, celui qui se nomme le moindre des apôtres, pourtant, c'est celui qui est passé par l'Institut biblique, hein,
oui.
L'apôtre Paul. Mmh. C'est lui, vraiment, s'il y a un qui a fait un institut de haut niveau, c'est bien lui. Hein. Et pourtant, il dit lui-même qu'il est le moindre de tous les apôtres. Donc, ça prouve que c'est on ne peut pas baser une hiérarchie sur la base de on a fait ou on n'a pas fait l'Institut biblique. Mmh. Parce que les apôtres, les autres apôtres, hein, Pierre, Jacques, Jean, etc., non, ils ne sont pas passés par les Actes
4, verset 13.
Voilà.
Ouais. Après, et dans les Actes, ils ont été reconnus pour avoir été avec le Christ. Parce qu'ils étaient, les gens étaient étonnés de leur parole, etc. Et ils ont reconnu qu'ils avaient été avec le Christ.
Avec le Christ.
Donc ils avaient, voilà, je crois que, je disais le plus prestigieux des attitudes bibliques, en fait c'est ce, voilà, c'était avec le Christ. Voilà, ça a dû être extraordinaire. Hein. Voilà. Mais voilà, vraiment, le Saint-Esprit n'est pas limité et il va se servir de différents outils. Alors, juste pour terminer, alors très rapidement, j'avais prévu beaucoup de choses, donc vous aurez plein de versets qu'on ne verra pas, mais juste pour parler un petit peu de la nomination des anciens. Parce que là aussi, comment ça se passe? Des fois, eh bien, il y a une institution qui va donc prendre un ancien quelque part, ou un pasteur, et l'imposer à une église locale. Et donc, il y a comme si c'était une autorité supérieure qui va imposer à une église locale un dirigeant. Voilà, une organisation ecclésiastique, on peut l'appeler comme on veut, un synode, une commission des ministères, voilà, tous les noms que l'on veut, et qui va imposer donc quelqu'un à une église locale. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas biblique. Parce que la seule autorité au-dessus d'une église locale, c'est Dieu. Voilà. Il n'y a pas d'institution, hein, nationale ou internationale qui aurait la primauté par rapport à une église locale. On fait partie d'une famille d'églises, donc nous ici c'est la ECM France, voilà, et on est heureux de se retrouver avec les frères et les sœurs, d'échanger, ils ont des conseils précieux, ils peuvent être aussi d'une aide vraiment très importante, mais ce n'est pas une autorité au-dessus de l'église locale. Hein. La seule autorité, c'est vraiment Christ. Et on ne peut pas, comme cela, imposer quelque chose, parce qu'on est une organisation, à une église locale, ça aussi, ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Alors, juste là aussi, la nomination des anciens, il y a aussi des fois des compréhensions. On a lu dans Tite que Paul disait « nomme des anciens ». D'autres versets aussi vont un petit peu dans ce sens. Paul a nommé des anciens aussi. Certaines familles d'église disent « ben voilà, puisqu'il n'y a plus d'apôtres, il ne peut plus y avoir d'anciens, parce que ce sont les apôtres qui, directement ou indirectement, en passant par Tite, par exemple, on nommait les anciens. Ils ne sont plus là, donc il ne peut plus y avoir d'anciens. Alors, juste très rapidement, je voudrais qu'on prenne quelques points ensemble. Dans Actes au chapitre 20, verset 28, on l'a lu, je l'ai sous les yeux, je vous relis. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. » Donc, première chose, bien entendu, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui va établir des anciens. On va dire, oui, mais ça, d'accord. Hein. Mais quelque part, bon, pratiquement, tout le monde peut dire que c'est le Saint-Esprit et puis prendre plusieurs chemins. Deuxième petite indication, je passe vite, hein. Mais si vous relisez Actes chapitre 6, c'est la nomination des diacres, Étienne, etc. Ils étaient, me semble-t-il, sept. Et on voit que, comment ont-ils été nommés? Ils n'ont pas été imposés par les apôtres. Mais il nous est dit que, en fait, les apôtres, quelque part, les ont présentés à l'Assemblée, et l'Assemblée, il y a un terme qui veut dire les a désignés en levant la main. C'est le terme qui est utilisé dans Actes chapitre 6. Et puis, Actes chapitre 14, verset 23. Et ça, c'est très très intéressant. Parce que c'est encore un autre terme qui va être utilisé. Actes 14, 23. Donc, ils désignèrent des anciens dans chaque ville, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils désignèrent des anciens. Certaines traductions ont « ils nommèrent des anciens ». Je vais vous lire une bonne traduction, la traduction Martin, hein, que Manu connaît, où il est dit ceci « et après que par l'avis des assemblées, ils eurent établi des anciens dans chaque église, ayant prié avec jeûne, etc., ils les recommandèrent au Seigneur. » Après l'avis des assemblées. Et ça, c'est la bonne traduction. Le terme grec qui est utilisé, c'est kérotoneo, qui veut dire étendre la main, tout simplement. Étendre la main. Donc voilà le terme qui était utilisé ici, dans ce verset que nous avons lu.
Envoie ta main levée.
Voilà, c'est ça. Alors, le petit état d'Athènes. Le petit état d'Athènes, il paraît-il, c'est la première démocratie au monde, je ne sais pas. Hein. Mais il y avait donc, les citoyens étaient assemblés, il fallait qu'il y ait un quorum, qu'il fallait qu'il y ait 6000 personnes minimum. Dans l'assemblée, c'était donc une ecclésia. Hein. Et il y avait donc des lois qui étaient appliquées, qui étaient proposées pour le bien du peuple. Et ces lois étaient acceptées comment? En étendant la main, kérotoneo. C'est le même terme. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Que Paul et Barnabas n'ont pas imposé des anciens, mais ils les ont proposés à l'Assemblée. Et l'Assemblée a accepté cela avec, bien sûr, l'aide du Saint-Esprit et vraiment la plénitude du Saint-Esprit qui a tout dirigé. Voilà donc comment c'était fait. C'était fait à main levée. Alors juste, hein, pour faire un parallèle avec ce que nous faisons, quelqu'un va dire, mais nous ici, hein, on ne le fait pas à main levée. On le fait avec des bulletins. Hein, donc c'est un petit peu différent quelque part, parce que l'Esprit de Dieu nous demande d'être vrais les uns avec les autres. Voilà, donc pourquoi le faire à bulletin secret? Il y a une petite anomalie, et si vous me dites ça, vous avez tout à fait raison. Mais je vous donne l'explication. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est quelque chose qui nous est fortement conseillé, notamment par le CNEF, pour que les statuts qui sont déposés en préfecture soient acceptés. Et ils peuvent être retoqués si on n'a pas cette information que pasteurs anciens, dirigeants, sont donc nommés à bulletin secret. Donc, voilà, on pourrait prendre le risque de déposer des statuts. Mais bon, sachant que là, en plus, il faut que ça soit accepté avant juillet, c'est un petit peu risqué, sachant que d'après le CNEF, très très souvent, c'est retoqué. Mais, quelque part, est-ce que ça nous empêche d'être vrais les uns envers les autres? Et je vais vous donner un exemple personnel. Je pense que c'était il y a 6 ans, lors d'une réélection, de ma réélection comme réélection entre guillemets, comme ancien, il y avait eu un bulletin négatif. Voilà. Bon. Ça peut arriver. Hein. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que cette personne-là qui avait mis ce bulletin m'a appelé pour venir à la maison, hein, et discuter. Et cette personne, voilà, m'a dit, voilà, c'est moi qui ai mis un bulletin non pour telle et telle et telle raison. Et on a pu vraiment discuter, se demander pardon, mettre les choses au clair, et tout a été réglé. Et je me dis, ça, c'est vraiment ce que Dieu veut. Et moi, je remercie Dieu pour la démarche de cette personne-là. Et la fois d'après, mais, c'était oui, quoi. Parce que tout était réglé. Voilà. Et les erreurs, les incompréhensions, et bien, tout cela avait été mis à plat. Et il y avait eu le pardon réciproque, et c'était en fait avec toujours les rouages, l'huile du Saint-Esprit qui a permis cela. Et donc, c'est vrai qu'on a cette contrainte, parce qu'il y a l'administration qui est là et qui regarde de plus en plus, mais quelque part, peut-être que ce n'est pas non plus quelque chose qui va empêcher aussi le Saint-Esprit de faire son œuvre. Il faut vraiment qu'on soit, qu'on l'on prie pour cela aussi, pour qu'il continue vraiment à donner cette communion fraternelle, cet amour que nous avons entre nous, et qui est vraiment, je le répète encore, une grâce de Dieu. Voilà, l'heure étant venue, on ne va pas continuer, j'avais encore 5 pages, mais bon, c'est pas grave de toute façon, c'est vraiment, cette série d'études, c'est vraiment un survol, on vous l'a déjà dit, c'est vraiment un survol, le défi, c'est d'essayer de condenser le plus possible, c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, c'est ce qu'on voulait vous proposer pour cette année, de toute façon. Alors, est-ce que quelqu'un veut terminer, veut prier pour terminer ?
Parce que tu es Dieu, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es celui, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous dirige, qui nous conduit, qui touche nos cœurs, Seigneur. Et merci pour cette étude que nous avons eue. Merci, Seigneur, parce que tu as touché nos cœurs, parce que tu nous as enseigné, tu nous as expliqué les choses, Seigneur. Seigneur, merci parce que ton esprit, il ne se lasse pas de nous redire les mêmes choses, de nous conduire, de nous enseigner, de nous instruire, et pour nous c'est vraiment bénéfique, parce que Seigneur, nous voulons marcher selon tes voies, selon ce que toi tu veux, selon ta volonté, Seigneur, selon ta parole qui est la vérité. Et merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Seigneur, permets que cette parole puisse être dans nos cœurs, puisse continuer à produire du fruit, continuer à être médité, Seigneur. Vraiment, nous te remettons toutes ces journées qui viennent, afin que nous puissions véritablement nous nourrir encore et encore de ta parole. Seigneur, nous voulons te remettre aussi nos retours, le retour de chacun dans sa maison, Seigneur, que tu nous gardes sur la route, que tu sois celui qui veille sur nous, Seigneur, qui nous garde, qui nous conduise, Seigneur. Nous te remettons aussi ce qui va se passer aussi vendredi, Seigneur, et aussi dimanche. Et nous te remettons, Seigneur, toutes nos rencontres, toutes nos communions fraternelles, Seigneur. Père, nous courbons devant toi et nous te remercions pour tout ce que tu fais du bien à nos cœurs. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen.